Je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc le livre des Actes, ou le récit des Actes des Apôtres, hein, Actes chapitre 2. Quelqu'un a dit, plutôt que d'appeler ça les Actes des Apôtres, il faudrait appeler ça les Actes du Saint-Esprit à travers les Apôtres. En fait, ce jour de Pentecôte, c'est pour beaucoup, ce n'est qu'une fête. Mais pour nous, c'est très important, parce que c'est, comme j'ai intitulé notre étude ce matin, la naissance de l'Église. Hein, c'est le jour 1 de l'Église de Jésus-Christ. Mais en fait, il y a deux événements quasiment simultanés hein, qui est ce jour-là. C'est le jour où s'accomplit cette promesse de Jésus, quand il a dit à ses disciples, je vais vous envoyer le Consolateur. Donc il a dit, nous l'avons lu tout à l'heure, juste avant de partir, il a dit, mais allez, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit Saint. Et donc c'est le jour où, il leur avait dit, nous l'avons lu tout à l'heure, dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Même s'ils n'ont pas compris ce que c'était, ce que ça représentait, mais en tous les cas, ils savaient que dans la chambre haute, ils attendaient quelque chose. Et puis, et comme nous l'avons lu aussi dans le chapitre 1, verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous recevrez, le Saint-Esprit viendra, vous serez baptisés, vous recevrez une puissance. Ça, c'est une première partie. Et puis la deuxième partie, le second événement, eh bien, qui se passe ce jour-là et que nous allons le voir à la fin du chapitre 2, il va nous dire, « Et le Seigneur, au verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc ce jour de Pentecôte, il nous dit, « Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc s'il ajoutait, c'est que l'Église était. Hein, elle existait à partir du moment-là. Et donc, il nous dit dans le verset 41, il a dit ce jour-là, il y a jusqu'à 3000 âmes qui se sont jointes à eux. Donc, c'est la naissance de l'Église primitive, mais c'est la naissance de l'Église qui est le corps de Christ aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est la naissance du christianisme, parce que le christianisme, maintenant, ça englobe beaucoup de choses. Mais l'Église de Jésus-Christ, les vraies brebis de Christ, partout dans le monde, et qui se trouve, hein, la vérité, c'est qu'il se trouve dans pas mal de communautés. Hein. C'est le clocher, ce n'est pas le clocher qui décide du salut de quelqu'un, c'est la relation qu'on a avec le Seigneur qui détermine ce salut. Donc, mais c'est ce jour-là, hein, la première chose, c'est que le Seigneur avait promis le Saint-Esprit, et il est venu. Et deuxième chose, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est créée, qui est inaugurée, c'est la naissance de ce corps que Jésus avait déjà conçu dans sa tête. Il en avait parlé déjà à ses disciples. Hein. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et donc c'est là que ça se réalise. Donc la première chose, c'est la venue du Saint-Esprit. Nous allons lire donc les premiers versets. Je vais lire là du verset 1, donc vous êtes dans Actes chapitre 2, et je vais lire des versets 1 jusqu'à 12, ou 13. Il dit, le jour de Pentecôte, ils étaient tous, c'est-à-dire les apôtres, hein, et puis si nous lisions dans le chapitre 1, il n'y avait pas que les apôtres, mais il y avait aussi ceux qu'ils avaient élus, hein, donc ils avaient choisi entre deux, donc déjà il y en a 13. Et puis après, il nous parle de tous les femmes, tout le monde. Ils étaient 120 personnes hein, dans la chambre haute au moment où cela arrive. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa langue, sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ils ne sachaient que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres, comme il y en a toujours, hein, se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » La première chose, la venue de l'Esprit-Saint. Jésus l'avait annoncé, comme nous l'avons lu hein, dans Jean chapitre 14, il a annoncé la venue de l'Esprit de vérité, le Consolateur qui viendrait. Par sa présence, eh bien, il sera près d'eux, il sera en eux, il sera toujours avec eux. Jésus a dit, même il vous est avantageux que je m'en aille et que l'Esprit vienne, parce que Jésus présent était limité par un corps, et donc il ne pouvait pas être présent partout, il était seulement présent là où se trouvait son corps. Tandis que l'Esprit Saint, qui n'a pas d'autre corps que le nôtre, hein, nous sommes notre corps et le temple du Saint-Esprit, eh bien, peut être avec chacun, là où nous sommes. Hein. Donc ce matin, nous pouvons dire, le Saint-Esprit est avec nous, tout comme ceux qui se trouvent sur un autre continent peuvent le dire aussi, avec autant de certitude. Et il a dit, non seulement est-ce qu'il sera avec vous, mais en plus, il vous enseignera ce que je n'ai pas pu vous annoncer. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, il le dira dans la chambre haute. J'ai beaucoup, parce que, dit, le programme n'est pas terminé encore. C'est le temps de partir, je dois mourir, mais le programme n'est pas terminé. Donc le Saint-Esprit va finir le programme. Hein, c'est pour ça que nous avons justement les épîtres, hein, à partir de l'apôtre Paul, les épîtres de Jean, de Pierre, Paul, et de Pierre, et de Jacques, et de Jude, et tout, c'est la suite. Hein, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce que Jésus n'a pas pu dire. Et donc, vraiment, c'est ce jour-là qu'il vient. Il y a aussi cette notion que le Seigneur leur avait confié une tâche. Hein, nous la voyons dans Marc chapitre 16. Jésus avait confié une tâche à ses disciples, une tâche qui énorme. Hein, dans Marc chapitre 16, et quand je lis au verset 15, il dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création, toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc il leur a confié une tâche et dit, « Maintenant vous allez par tout le monde et prêcher. » ce message, et ceux qui croiront seront sauvés. Et il y a des gens qui sont embêtés par là, je dis entre parenthèses, hein, qui croient et qui seront baptisés seront sauvés. Ils disent, ah oui, il faut le croire et il faut le baptême. Mais remarquez qu'en prédit, celui qui ne croira pas sera perdu. Il ne dit pas celui qui ne sera pas baptisé. Hein, donc c'est vraiment la foi qui fait la différence. Bien sûr, le baptême est la chose normale qui suit la foi, mais là, c'est la foi qui décide, qui détermine le salut. Mais il leur dit d'aller par tout le monde. Et il les envoie, mais il ne les envoie pas, vous savez, ils envoient pas, il leur donne ce qu'il leur faut pour accomplir la mission. Hein. Quand le Seigneur envoie, eh bien, il donne les moyens. Et c'est justement ce que nous avons lu dans Actes chapitre 1. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'étais en train de penser, et quand je pensais à ça hier, à l'époque, les extrémités de la terre, c'était l'Amérique, hein, c'était l'Australie. Maintenant, on a cette idée que le christianisme vient de l'Amérique du Nord. Non, ça, c'est les extrémités de la terre. C'est parti jusqu'aux extrémités de la terre, l'Australie, partout. Et en fait, ce que le Seigneur veut, c'est que ça se propage dans le monde entier. Personne n'est exclu. Mais il dit, je vous enverrai une puissance. Et le mot puissance, là, c'est le mot dynamis. Ça veut dire le pouvoir, la capacité. Hein, ce n'est pas l'autorité, c'est la capacité de le faire. Hein, le Saint-Esprit vous donnera, vous rendra capable de le faire. Et cette puissance permettra aux apôtres de faire des miracles, des signes, des prodiges. Mais le but, hein, si nous lisons le texte, le but des prodiges et des miracles, c'est pas une fin en soi. C'est pas faire un miracle pour que les gens se disent « Waouh, un miracle !» Il est fort celui-là. Hein, ça, c'est de la performance. C'est du spectacle. Mais en fait, les miracles qui accompagnaient les apôtres, c'était pour certifier le message. Hein, donc, le but, c'est que le message parvienne. Hein, et certains disaient, mais bon, sur quelle base est-ce que je vais te croire? Et alors, ils avaient parce qu'il n'y avait pas de texte, hein, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'existait pas encore. Donc, c'était ces miracles, ces signes qui certifiaient leur message. Maintenant que le message a été rédigé et que nous l'avons, hein, nous avons le Nouveau Testament, nous pouvons aller voir. Et c'est le réflexe normal que nous devons avoir, c'est d'aller vérifier toutes ces choses dans le texte. Ils étaient là, il nous dit dans le chapitre 2, ils étaient là dans la chambre haute, et puis on a justement, au verset 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Bon, vous pouvez imaginer, je vous laisse imaginer ce que vous voulez imaginer. Mais ça fait du bruit. Comme on dit, c'était même les gens de la ville se sont approchés. Donc, quel genre de bruit? Mais en tous les cas, ça a attiré l'attention. Et le signe visible, et nous le lisons tout au début, le premier signe visible, bon, il y avait le bruit, les disciples ont entendu, d'autres ont entendu sans savoir ce que c'était. Mais après, le premier signe visible, il nous dit, il y avait des langues comme des langues de feu. Hein. Je rappelle ça parce que souvent on est là, on pense qu'il y a des petites lames de feu, des langues de feu sur chacun. Il nous dit comme des langues comme des langues de feu. Hein, donc c'est pas que tout le monde tout d'un coup devient une petite bougie. Hein. C'est comme ça qu'on s'est représenté, mais s'il faut pas. Vous savez, le texte il dit ce qu'il veut dire. Hein, c'est le même problème, c'est quand vous vous rappelez au baptême de Jésus. Il nous dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Il ne nous dit pas que c'est une colombe qui est descendue. Il nous dit qu'il est descendu comme une colombe. Vous savez comment c'est les pigeons, ils atterrissent comme ça, hein, comme un hélicoptère. Hein, ils n'arrivent pas. C'était pour dire, le Saint-Esprit est descendu comme ça, puis s'est posé sur Jésus. Il est descendu comme une colombe. Hein, donc, voilà, après... Bon, quand on est obligé de représenter, on est obligé de représenter par quelque chose, mais allons toujours nous vérifier sur le texte exact, hein, ce que le texte dit. Donc, il nous dit que c'est comme des langues de feu, et donc déjà, et je fais remarquer le détail, c'est que ce n'est pas tombé uniquement sur Saint-Pierre, hein, comme certains voudraient, c'était sur tous qui étaient là. Et tous ceux qui étaient là, si vous regardez dans le chapitre 1 et au verset 13 et 14, il nous dit qu'il y a déjà tous les disciples qui sont là. Et au verset 14, il nous dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, donc il y avait des femmes, plus il y avait Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Hein, tous étaient là. Mais il y avait du monde, il y avait 120 personnes. » Et certains qui étaient arrivés à la fin du ministère de Christ, certains sont venus après la résurrection de Christ. Et ce n'est pas étonnant qu'il y en ait 120, parce que dans 1 Corinthiens 15, il nous dit qu'il y avait un moment où il y avait 500 témoins de la résurrection de Christ. Donc là, il y en a 120, ils sont là. Tous ceux qui étaient là, Jésus a dit, allez et attendez-moi là. Tous ceux qui étaient là, eh ben, ont reçu ce Saint-Esprit. Et le signe particulier, extraordinaire et inimitable, c'est qu'ils se sont mis à parler des langues, des vraies langues, et les diverses langues qui se trouvaient à Jérusalem. C'était la grande fête, Pentecôte, les Juifs étaient venus de partout dans le monde connu, et ils étaient là, et ils avaient des origines, et vous avez vu, on l'a lu tout à l'heure, toutes les régions qui venaient, depuis l'Afrique du Nord, de l'Europe, et puis de l'Asie, ils étaient tous là, chacun avec sa langue, sa dialecte, et dit, on entend parler dans notre langue maternelle. Hein, et vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas des grandes langues qui couvraient. Hein, chaque petite vallée a son patois. Hein. Chacun, on pouvait identifier. Et dire, c'est quand même bizarre, ces gens, c'est des Galiléens. Ça se voit, regarde leur manière de s'habiller, leur manière de se comporter. C'est des Galiléens. Normalement, ils ne parlent pas cette langue-là. Et tous parlaient. C'était un signe extraordinaire. Pour certifier, et les gens qui les entendaient comprenaient, hein, je souligne ça, ils comprenaient ce qu'il dit, et il dit qu'il nous parle des merveilles de Dieu. C'était ça le contenu, c'est qu'il parlait des merveilles de Dieu. Quand Dieu agit, eh bien, la gloire lui revient. Et... bien sûr, comme vous voyez, le verset 13, il dit, mais d'autres se moquaient. Il y a toujours des gens, chaque fois que Dieu fait quelque chose, et il y a toujours des gens qui veulent exclure Dieu, hein, le retirer de l'image. Et donc, ils cherchaient une autre explication qui n'inclut pas Dieu. Alors, ils ont trouvé, ils ont dit, ils sont pleins de vin doux. Écoutez, si vous trouvez l'adresse où on vend ce vin-là, j'en veux. Parce que là, pour parler une langue étrangère plus facilement que à Babel sur Internet, ben moi ça m'intéresse. Hein, si vous trouvez ce vin-là. Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas où ils ont eu cette idée. Mais vous savez, chaque fois qu'on veut essayer de trouver une explication qui exclut Dieu, il faut trouver quelque chose qui est incroyable. Hein, c'est difficile à croire. Et de nos jours, on essaye d'exclure Dieu de la création. Et on s'est inventé toutes sortes d'explications qui demandent plus de foi que croire que Dieu a créé le monde, hein, par exemple. Et donc, voilà les signes qui sont arrivés, qui ne peuvent pas être imités. Personne n'a prévu, a prétendu avoir ces mêmes signes lorsque quelque chose est arrivé chez eux. Hein. Donc c'est vraiment, c'est unique. Ça n'arrive pas à une personne qui se trouvait dans une grotte et lui est arrivé quelque chose, hein, comme certaines religions qui circulent et leur fondateur a eu une vision alors qu'il était tout seul dans la forêt ou dans une grotte ou sur une montagne ou quelque chose, il n'y avait pas de témoin et puis il dit voilà j'ai reçu ceci, ceci. Là, 120 personnes et ils sont descendus dans la rue, les gens ont vu, les témoins c'était des non-croyants qui ont vu, qui ont certifié que c'était arrivé. Hein. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait pour qu'il n'y ait plus de discussion. Il nous dit qu'ils ont été tous remplis de l'Esprit. Plus tard, quand Pierre se trouvera chez Corneille, dans Actes chapitre 11, il racontera ce qu'il était arrivé là. Il a dit, mais en fait, il était en train de parler à ses païens pour la première fois. Pierre qui parle à ses païens, qui parle de Jésus-Christ. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit descend sur eux et eux se mettent à parler en langue. Et Pierre voit ça. Il dit, mais c'est exactement ce que nous est arrivé le jour de Pentecôte. Il dit, c'est bizarre parce que ce n'est même pas des Juifs. Jusque-là, il croyait que c'était uniquement pour les Juifs. Et là, c'est des non-Juifs qui reçoivent exactement le Saint-Esprit de la même manière, les mêmes signes, que les apôtres le jour de Pentecôte. Et alors il dit, ben, si Dieu les approuve, ben, qu'est-ce que moi, je vais les baptiser. Et il les a reçus, et quand il retourne à Jérusalem pour leur raconter, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as été faire chez les païens? Il dit, oui, mais je ne peux rien. Dieu les a, le Saint-Esprit est descendu sur eux, il les a baptisés comme il nous a baptisés. Et c'est là où il exprime l'expression, le baptême du Saint-Esprit, il nous a baptisés. Et vous souvenez, dans Jacques, Actes chapitre 1, tout à l'heure, on lisait, Jean vous a baptisé d'eau, mais moi je vous baptise du Saint-Esprit. Hein, donc vous serez baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est, le baptême du Saint-Esprit, c'est où Dieu prend la personne qui croit et l'introduit dans l'Église, dans le corps de Christ. Hein, c'est toujours le Seigneur qui introduit. Hein, c'est pas une cérémonie, c'est pas un baptême, c'est pas une signature sur un registre. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le corps de Christ, toujours. Hein, heureusement. Parce que là, si c'est lui qui l'a mis, il n'y a personne d'autre qui peut nous enlever sinon lui. Et il n'a aucune intention. Donc il nous dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils furent baptisés du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on peut dire, c'est à ce moment-là qu'a été créé, c'est la naissance de l'Église, parce que chacun, tous ont été baptisés, les 120 introduits en premier, et après tous ceux qui ont cru ce jour-là, eh bien il nous dit, il les a ajoutés à l'Église. Hein, donc voilà, ça s'est passé et il y a plus de 3000 âmes déjà le premier jour. Et alors, la suite du chapitre 2, hein, à partir du verset 14, alors tout d'un coup, Pierre se lève. Et je ne vais pas lire ces versets-là, mais vous pourrez les revoir, mais il est en train de citer plein de prophéties, il est en train de citer les prophètes pour le dire, mais si Jésus est mort, est ressuscité, c'est selon les paroles des prophètes. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, souvenez-vous, hein, quand Jésus leur a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit descende », ils ont dit « Ah, c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume ?» Hein, ils avaient déjà, ils pensaient encore, hein, ils étaient encore, et puis il y en avait qui cherchaient, voulaient être Premier ministre, et l'autre, ceux-ci, ils voulaient des postes déjà. Ils étaient encore dans cette pensée-là, 10 jours avant. Le Saint-Esprit est descendu, tout d'un coup, ils sont en train de... Il y a un autre langage. Paul, qui chaque fois que Jésus a dit, chaque fois que Jésus disait à Pierre, je vais mourir, je vais être mis à mort, je vais être... Pierre, c'était celui, le premier qui parlait, il dit, ah non, jamais, jamais, non, non, écoute, parle pas comme ça, dis pas des bêtises, c'est pas comme ça, hein. Et là, tout d'un coup, ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus Pierre qui parle, c'est le Dieu qui parle à travers de Pierre, tout d'un coup, c'est un autre langage, un autre contenu. Il dit, mais vous savez, ce Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait tant de prodiges, parmi vous, que vous avez vu, celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Le dernier miracle qui surpasse tous les autres miracles, il est ressuscité. Il dit, c'est lui le Messie que nous attendons. Et il donnera toute une série, hein, jusqu'au verset 36, il vous parle. Il nous dit, verset 36, donc chapitre 2, verset 36, dit « Et toute la maison d'Israël, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Vous voyez la transformation qu'il y a chez Pierre lorsque le Saint-Esprit prend possession. Et c'est caractéristique du Saint-Esprit quand il prend possession de quelqu'un, c'est que tout d'un coup, c'est Christ qui est glorifié. Il avait même dit dans Jean 14, il avait dit, il vous parlera de moi. Et quand Pierre a parlé, poussé par l'Esprit, il a parlé de Jésus. Au verset 20, Il venait de leur dire, écoutez, ce qui arrive, c'est un accomplissement partiel de la prophétie de Joël. Et puis il arrive au verset 20, donc on voit la fin de son récit, il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, donc il est en train de dire, ce jour est grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, à partir de ce jour-là, donc aujourd'hui, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Strictement, il suffira d'invoquer le nom du Seigneur, faire appel à lui. Et il dit quiconque. Le mot quiconque, là, ce n'est pas le même que Jean 3,16, par exemple, hein, quand il dit quiconque croit. Ici, le quiconque, ça veut dire toute personne, n'importe quelle personne qui invoque. Hein, c'est, ici, en fait, qui est quiconque ? Ben, c'est celui qui invoque. Si tu invoques le Seigneur, tu es le quiconque. Hein, c'est quiconque invoque. Et donc, c'est un pronom impersonnel hein, qui il dit, mais celui qui invoque, qui fait appel, il dit, Seigneur, écoute, sauve-moi, délivre-moi, pardonne mes péchés. Peu importe comment vous le formulez, avec votre langage, Dieu comprend. Hein, parce qu'il comprend le langage du cœur. Et il dit, il sera sauvé. Encore une fois, il ne parle ni de baptême, ni de devenir membre d'une église, et surtout pas de devenir baptiste. Ça, marquez ça. Hein. Ça n'a rien à faire. C'est croire en Jésus-Christ, lui seul, qui fait toute la différence. Et on sera sauvé. Et donc, il suffit d'invoquer Jésus-Christ, rien d'autre, personne d'autre, Jésus seul. Hein, vous vous rappelez sur la montagne de Transfiguration, Pierre, tout d'un coup, il lève les yeux, il regarde, il voit Jésus, puis il voit Moïse et Élie. C'est pas possible. Oh, quelle occasion! Et tout de suite, les premières choses qui lui viennent à l'esprit, ah ben on va faire trois temples, hein. On va faire un pour Moïse, un pour Élie, un pour Jésus. Et puis tout d'un coup, un nuage est passé, tout s'est effacé, il ne restait que Jésus. Et Jésus et la voix du ciel qui dit, écoutez, lui seul, hein, pas les autres. On apprécie Moïse, on apprécie, mais Jésus, personne d'autre. Et c'est ça qui doit être dans notre esprit aussi. Jésus. Tous les autres, c'est des hommes. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. On les honore. Mais le Seigneur, c'est Jésus. Donc, là, nous avons vu, premièrement, nous avons vu qu'il y avait la venue de l'Esprit. Deuxièmement, eh bien, il y a la proclamation de Jésus comme Messie. C'était très important pour le peuple juif. Et puis Jésus avait dit, hein, commencez à Jérusalem, ensuite la Judée, donc le pays où se trouvaient les Juifs, la Samarie, les gens qu'ils n'aimaient pas, il dit les Samaritains, oui, hein. Et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et tous ces païens-là, tous ces gens que vous n'aimez pas, mais moi je les aime, je veux les sauver. Et donc, le Saint-Esprit est venu et ça fait une grande différence dans la vie de Jean-Baptiste. Je me demande, c'est une question que je pose à chacun de se la poser, est-ce que l'Esprit dans ma vie, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu un changement ? Normalement, le jour où j'ai fait appel au Seigneur, le Saint-Esprit est venu en moi. Mais est-ce qu'il y a une distinction entre ce que je pensais et ce que je pense maintenant ? Est-ce qu'il y a une différence entre la manière dont je me comportais avant et la manière dont je me comporte maintenant ? Vous savez, des fois, il m'arrive d'être chez des gens, hein, je ne connais pas la maison. Et puis après, on vous montre votre chambre. Puis quand vous montez la chambre, en général, la lumière est allumée. Hein. Et puis vous regardez, vous fermez la porte, et puis tout d'un coup, vous êtes prêt à vous coucher, et on éteint la lumière où ? Et vous allez chercher, des fois c'est pas évident. Hein. Des fois il y a plusieurs interrupteurs, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être vous trouvez tout de suite, hein, mais moi, je suis là, je dis, tiens, on va voir ça. Puis on essaye, tic-tac, ça c'est un pas. Qu'est-ce que je conclue ? Ça ne marche pas. Non, je me dis, non, ben, c'est pas celui-là. Hein. Je vais trouver un autre. Et vous savez, et dans notre vie, hein, si le Saint-Esprit s'était présent ou absent, et ainsi tout d'un coup, supposons qu'il s'absente, est-ce que ça changerait quelque chose dans votre vie ? Et c'est pas impossible. Vous savez, dans l'Apocalypse, il nous parle de cette église où Jésus se tient à la porte, il frappe. Les gens sont dans l'église, ils sont en train de louer le Seigneur, tout ça. Et puis lui, il est dehors, il ne se rend même pas compte. Il dit, moi, je frappe à la porte, je vous rentrez. On arrive à faire, et c'est ça, bon, c'est du christianisme sans Jésus. Hein? On a toute la forme, on a toute cérémonie, on a tout, tout. Et mais lui, il n'est pas là. Et en plus, on ne le sait pas. Mais bon, on ne va pas parler des autres, on va parler de soi-même. Et moi, qu'est-ce que ça change? J'ai Jésus ou je n'ai pas Jésus? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que les autres disent, mais il y a quelque chose chez lui. C'est pas la même chose. Il y a autre chose. Ou ceux qui vous connaissaient, ils disent, mais je le connaissais, ce qu'il était avant. Et ce qu'il est maintenant, c'est autre chose. Ou il dit, non, ben, il devient religieux. Mais sinon, c'est le même caractère. Et là, c'est un interrupteur qui ne change rien, là. Est-ce qu'il y a eu un changement? Il nous dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle création. La question, c'est, est-ce que je suis juste, j'ai changé quelques habitudes, maintenant le dimanche je vais à l'église? Ou est-ce qu'il y a vraiment une transformation? Et qu'on me prenne n'importe où, on me trouve n'importe où, on me dit, mais il n'est pas pareil. Demain, on va s'amuser à faire une rando sur la montagne. Mais j'espère qu'on est autant chrétiens là qu'ici. Hein. Et puis après, le jour où vous arrive un pépin, il y a quelqu'un qui coupe la route, et vous êtes aussi spirituel qu'à l'église. C'est pas évident, hein? Vous avez les mêmes pensées. Que le Seigneur le bénisse. Hein, c'est sur autre chose. Hein, c'est, soyons pratiques. Hein, est-ce que vraiment... Là, on a fait remarquer que chez Pierre, hein, il avait certaines ambitions avant, mais une fois que le Saint-Esprit a pris possession de lui, il avait carrément... Il ne pensait plus à son succès, mais il pensait à Jésus. Que Jésus soit glorifié. Discuter avec des frères et sœurs il n'y a pas si longtemps, là, cette semaine, et on parlait de ces choses qui sont un mauvais témoignage pour le Seigneur. C'est des gens qui se disent chrétiens, puis après, il y a un témoignage, un comportement qui ne correspond pas. Après, et surtout quand on a de la famille, on dit, oh, bah, tu es chrétien, oui, les chrétiens, ça aussi, hein, des chrétiens, ça ne change rien. Si c'est ça, devenir chrétien pour être comme ça, ce n'est pas la peine. Hein. Et on est là, on est dans notre cœur, on dit, mais il a raison. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le fait d'être chrétien, c'est le fait que lui, il a un problème. Hein? Bien sûr qu'il faut garder les yeux sur Christ, mais vivons la vie de Christ. Hein? Si je proclame que Jésus est ressuscité et qu'il donne une vie nouvelle, ben, faut que ça paraisse, ça transparaisse. Hein? C'est... Donner à quelqu'un une lampe à pétrole et il ne voit pas de flamme, il dit non, il y a de la lumière, ne vous en faites pas, allez-y. Mais je ne vois rien. Mais est-ce que ce chrétien, oui, il a Jésus, mais je ne vois pas Jésus. Non, mais ne t'en fais pas, il est Jésus, il est baptisé, ne t'en fais pas. Mais où est Jésus? Dans sa vie, dans son langage, dans ses ambitions, dans ses projets. Et troisièmement, nous avons vu aussi dans ce chapitre, nous voyons, comme je l'ai dit, la naissance de l'Église. Et à la fin au verset 37, à la fin du discours, ils disent, après avoir entendu ce discours, c'est pas après avoir entendu Pierre, après avoir entendu le message, hein, le discours. Hein, donc, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent, Pierre, et aux autres apôtres, à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Il dit, ah, bon, d'accord, on a compris, c'est nous qui l'avons crucifié, c'était le Messie, on l'a crucifié, et maintenant on fait quoi? Ah, c'était un langage de tous les jours. Et maintenant, est-ce qu'on peut sortir de cette situation? Et Pierre a donné une réponse très simple, au verset 38. Repentez-vous, numéro 1, et que chacun de vous soit baptisé, numéro 2, Et troisièmement, recevez le don du Saint-Esprit. Alors, il y a trois étapes. Ça vient. Alors, en fait, le seul où ils sont actifs, c'est repentez-vous. C'est eux qui initient, hein, se repentir de Dieu. Se repentir, ça veut dire je veux changer de vie, je prends une décision. Hein. Donc, c'est la seule chose. Soyez baptisés. Donc, on le subit, on le demande. Et puis, recevez le don du Saint-Esprit. C'est un don, c'est gratuit, c'est un don. Il dit, vous le recevrez. Dieu le donne. En fait, il n'y a que vous qui devez prendre l'initiative de dire, Dieu, les choses ne vont pas. J'ai vécu pour moi et je veux vivre pour toi. Et je crois que tu es mort sur la croix, c'est pour pouvoir régler ma situation. Ce n'est pas une question. Hein, n'allez pas voir Dieu et dire, mais écoutez, Dieu, je ne suis pas aussi mauvais que les autres. Hein, parce que là, vous allez ressembler aux publicains, aux pharisiens qui priaient dans le temple. Ils disaient, moi, je te remercie, Seigneur, que moi, je ne suis pas comme celui-là. Mais le publicain, il a dit, Seigneur, oh, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. Et Jésus a dit, Dieu a l'entendu lui, et puis l'autre, c'est du bruit, ça. Je crains que souvent, les prières dans le monde, beaucoup de monde prie, mais certains ne sont que du bruit pour le Seigneur. Et puis il y a d'autres, c'est la voix qu'il entend. Il dit, et le résultat, eh bien, on voit au verset 42, qu'est-ce que c'était ? La vie chrétienne commence par quoi ? Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne ? Il y a des gens, ils ont dit, c'est quoi être chrétien ? Ben, ça veut dire qu'on ne va plus au bar, et puis on ne danse plus, et puis on ne s'amuse plus. Tout ce qui est amusant, on ne le fait plus. Maintenant, c'est que du sérieux, et on prie. Je dis, waouh, tu ne connais pas la vie chrétienne. Toi, tu connais la religion, mais tu ne connais pas la vie chrétienne. Hein? Christ, regardez la vie de Christ. Il n'a pas passé toute sa vie dans le temple à Jérusalem. En fait, il était partout, sauf. Et puis quand il a été là, il mettait le ménage. Il faisait le ménage. Regardez ce qu'il faisait au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. L'enseignement des apôtres, c'est-à-dire c'est l'enseignement qu'il recevait. Et puis la communion fraternelle, bien sûr, c'est avec les frères et sœurs d'être ensemble. Et la communion fraternelle dans la fraction du pain, donc la table du Seigneur, hein, le souvenir de la mort de Christ. Et dans les prières, hein, la communion fraternelle, dans la célébration de la table, et la communion fraternelle dans les prières. C'est porter les fardeaux des uns des autres. C'est ça, la communion fraternelle. Ce n'est pas le fait de se retrouver en train de manger des frites ensemble. C'est le fait de porter les fardeaux des uns des autres, de partager, de parler du Seigneur ensemble. C'est là, la communion fraternelle. Il dit, c'est ça qu'il faisait. C'était très simple, hein. C'est beaucoup moins compliqué que nos rituels d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et c'était ça le culte tout à fait de l'Église primitive, et pourquoi pas ne retournons pas à cela. Hein, c'est ça l'essentiel. Après, vous pouvez le garnir comme vous voulez, selon les cultures, selon les présents, mais n'oublions pas l'essentiel. Hein. Et lisons la suite. Il dit, au verset 44, il dit, tous ceux qui croyaient, et remarquez, je vais faire ressortir quelque chose, il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et puis ils se trouvaient, après, ils disent, où ils étaient assidus au temple. Ils étaient toujours. Mais remarquez, il y a quelque chose qui est là, c'est qu'ils ont envie d'être ensemble. Ils partagent tout. Hein, c'est ça le premier sentiment, hein, l'enfant de Dieu, c'est de se retrouver avec d'autres. Et de porter ensemble, de partager ensemble. Et c'est cette communion. Et donc, ils cherchaient à être dans le même lieu, à partager, là, ils mettaient tout en commun. Et parce que certains, en devenant chrétiens, se faisaient renvoyer de chez eux. Hein, donc après, ils étaient reçus par les autres. Et dans le temple, ils se réunissaient dans le temple parce que c'est là que les chrétiens se réunissaient à l'époque. Hein, ils n'avaient pas de locaux à eux. Hein, donc ils se réunissaient dans le temple parce que c'est là qu'il y avait un grand espace. Un désir de communion et d'unité a caractérisé les premiers chrétiens. Et ça nous fait penser à la prière du Seigneur. Vous vous rappelez, dans la chambre haute, Jésus a prié. Et dans cette prière, il a dit « Moi en eux, toi en moi, il s'adresse au Père, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Je me rappelle, on avait souvent à l'église à Saint-Denis, on avait des gens de toute nationalité, 15, 20 nationalités comme ça, puis toute culture, et puis ça se voyait même dans les vêtements qu'il y avait toutes sortes de cultures. Et puis après, on avait parfois des visiteurs de l'extérieur qui arrivaient, puis qui voyaient. Ce qui les a marqués le plus, ce n'est pas le prédicateur et ce qu'il a dit, hein, c'est ce qu'ils voyaient chez les autres. Ils les voyaient ensemble, on voit qu'ils sont contents d'être ensemble, ils sont mélangés, ils mangent ensemble, ils rient ensemble, ils discutent, et c'est pas comme le métro parisien. Dans le métro parisien, il y a du monde de partout, mais il n'y a personne qui se parle. Là, ils se parlent et tout ça. Et il dit, et souvent, j'ai demandé à des gens, j'ai dit, mais bon, la première fois que vous êtes venu, quelqu'un vous a amené, vous êtes venu en touriste, en perte de curiosité, mais vous le voyez, je vois que vous revenez. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu? Il a dit, parce que j'ai vu le comportement de tout le monde et je me suis dit, il y a quelque chose ici. Et je voudrais le découvrir. C'est exactement ce que Jésus dit. Quelque part où il y a cette communion, ce partage, tout ça. Et puis, vous savez, les gens savent si c'est du vrai ou de l'artificiel. Hein. Si c'est la politesse, des politesses qu'on se fait, ou si c'est vraiment, on est heureux d'être ensemble. Les gens le savent, hein. Ils le sentent tout de suite, on ne trompe pas les gens. On se trompe soi-même plus facilement qu'on trompe les autres. Mais c'était la prière du Seigneur. Il dit que ce soit un, afin qu'il sache que moi, je viens du Père, et que je suis un avec le Père. Ça sera leur preuve, c'est de voir cette communion qui existe entre les frères et sœurs. L'Église de Jésus-Christ que les Saint-Esprit crée, c'est une communauté de personnes rachetées par le sang de Christ et vivant à la gloire de Dieu à tout temps, là où ils se trouvent. On recherche toujours d'être avec des frères et sœurs ensemble. C'est ça le message de Pentecôte. C'est ce que Dieu a voulu inaugurer, créer à Pentecôte. Hein. C'est pas juste quelque chose d'extraordinaire. Ouah, il y a un spectacle, on parle en langue et tout ça. Non, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est la chose que le monde doit voir. Et il doit voir Christ dans l'Église. Et pas juste du rituel, une religion morte, mais une vie dans chacun. Et donc, nous allons nous arrêter avec ces pensées-là et nous allons donner quelques minutes à chacun de pouvoir déjà devant le Seigneur dire: Seigneur, écoute, plutôt que de regarder l'autre et dire révéler chez lui, mais qu'est-ce que moi j'ai fait, quel changement, qu'est-ce que ça m'apporte chez moi, et de pouvoir formuler une prière qui corresponde à votre besoin personnel, après quoi je prierai.